Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute! Pour présenter notre invité, je vais vous raconter notre rencontre de pré-enregistrement. Avant qu'on enregistre, on invite toujours les invités pour expliquer le projet. Puis après 10 minutes d'échange avec Isabelle Montesino-Gelet, elle nous propose de nous lire un album. En moins de deux, elle nous emmène dans son univers à travers la lecture du livre. Vous l'aurez compris, c'est une professeure titulaire en didactique, en littératie, passionnée et passionnante. Aujourd'hui, nous avons très hâte qu'elle nous parle de la manière de s'approprier la littérature jeunesse. Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Lucille, bonjour Christelle.
Peux-tu commencer par d'abord, pourquoi avoir recours à des albums en littérature jeunesse ?
C'est une excellente question. En fait, les enfants qui sont suivis en orthopédagogie ont souvent un sentiment de compétence très faible. Ils ont régulièrement vécu des difficultés, des échecs, et évidemment, ça a affecté leur sentiment de compétence. Or, la motivation envers les apprentissages dépend assez largement du sentiment de compétence, ou du moins est vraiment affectée par ce sentiment, ce faible sentiment de compétence. Et du coup, les interventions en orthopédagogie gagnent non seulement à viser des apprentissages spécifiques, mais aussi à soutenir la motivation envers les apprentissages. Et c'est à ce niveau que les albums sont précieux, parce que généralement, ils suscitent l'engagement. Je dis généralement parce que ça dépend évidemment de la qualité des œuvres qu'on propose aux enfants. Un autre avantage des albums, c'est que ce sont des œuvres courtes. Certains albums sont même sans texte, donc elles ne demandent pas un temps extrêmement long pour être approchés, traités. Donc, c'est quelque chose qui est un immense avantage en enseignement. Un autre avantage, c'est que l'album est une œuvre de type multimodal dans laquelle il y a à la fois des illustrations et du texte. Et les illustrations ont un rôle très, très, très important, sont tout à fait centrales, et elles offrent une contextualisation au sens. Cette contextualisation est vraiment un soutien à la compréhension pour beaucoup d'enfants. Donc, c'est un avantage extrêmement majeur des albums que d'avoir cette contextualisation par les images. Par ailleurs, il est clairement montré que le recours à la lecture, le recours aux œuvres, va soutenir le développement langagier parce qu'il y a un apprentissage incident du vocabulaire, notamment, ça c'est un exemple, mais de façon beaucoup plus large que ça, ça soutient le développement global de l'enfant. Les personnages mis en scène dans des œuvres narratives sont en proie à des émotions, vivent des interactions, donc deviennent des modèles qui permettent de mieux comprendre les enjeux relationnels et de développer des compétences socio-émotionnelles. Donc, c'est quelque chose aussi qui est pas mal documenté, l'intérêt d'avoir recours à des œuvres littéraires pour soutenir le développement socio-émotionnel. Par ailleurs, les œuvres de qualité présentent un grand nombre de repères culturels. Vraiment beaucoup de repères culturels, des repères culturels qui peuvent être d'ordre matériel, comme des lieux, des sites, des objets, mais aussi des repères culturels historiques, géographiques, des repères culturels reliés à des valeurs. Donc, il y a énormément de contenu et de sens au sein des albums qui vient alimenter la curiosité et l'intérêt des enfants et donc leur engagement. Donc, c'est avantageux pour ça d'utiliser des albums en orthopédagogie.
Puis, tu parlais d'albums sans texte. Et aussi des albums qui puissent être assez stimulants. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums jeunesse sur le marché. Comment on fait pour les choisir pour que ça soit pertinent ?
Alors, évidemment, la qualité des albums est variable. C'est un album, dans le fond, c'est un texte illustré et un texte, ce n'est qu'un discours transcrit. Et Au sein des discours, on en est bien conscient, il y a des discours qui sont extrêmement inspirants et porteurs et stimulants, et d'autres qui, ma foi, sont franchement pauvres. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, il y a au sein des albums disponibles, certains qui sont davantage des produits, hein, qui visent une consommation rapide et qui n'ont pas de grande portée en termes de soutien développemental. Et il y en a d'autres, au contraire, qui sont de puissants moteurs pour soutenir le développement, qui sont de très grande qualité. Alors évidemment, la question, et c'est exactement ce que tu as mis de l'avant, Lucille, la question c'est comment sélectionner des œuvres de qualité dans une offre extrêmement abondante, parce que l'offre est abondante et elle ne cesse de croître. Donc c'est comment on fait? Ben pour ça, il faut avoir des critères. Il faut avoir des critères de qualité. Alors évidemment, on peut utiliser des ressources qui nous aident, qui eux ont recours à des critères et qui sélectionnent des œuvres qui ont un fort potentiel. C'est par exemple le cas du site ministériel Constellation. C'est un site qui offre des œuvres qui ont été jugées par une équipe de spécialistes et qui sont estimées porteuses pour le développement. Donc c'est un très bon moyen de sélectionner des œuvres. Il y a d'autres moyens, il y a des revues spécialisées en littérature jeunesse, donc il y a d'autres moyens d'identifier des œuvres de qualité. Mais il y a aussi l'intérêt d'avoir soi-même des critères qui nous permettent de porter des jugements appréciatifs, hein, de se dire, OK, pourquoi, quand je tombe sur une œuvre que je trouve vraiment excellente, qu'est-ce qui fait que je la trouve vraiment excellente? Et pour ça, moi, j'aime beaucoup utiliser les critères proposés par Joyce Sarik. Joyce Sarik, c'est une chercheuse en bibliothéconomie qui s'intéresse à l'aide aux lecteurs. Elle ne s'intéresse pas à la littérature jeunesse en tant que telle. Elle s'intéresse à la littérature plutôt pour tout public. Mais ces critères sont tout à fait adaptables pour considérer la qualité des œuvres jeunesse. Donc, ces critères, quels sont-ils? Dans le fond, ce sont des critères pour les œuvres narratives, hein, sachant que au sein des albums, il y a des albums narratifs, mais il y a aussi des albums qui ne sont pas narratifs, hein, il y a des albums documentaires, etc. Mais les critères de Sarik sont pour les albums narratifs et ils mettent de l'avant comme critère, la qualité du système de personnage. Donc, la qualité du système de personnage tient à des éléments descriptifs, mais en soi, les éléments descriptifs ne nous disent pas si ça va être de qualité ou non. Mais on peut déjà commencer par regarder l'œuvre par rapport à ces éléments descriptifs, comme est-ce que c'est une œuvre qui compte un personnage, un duo, un groupe? Est-ce qu'il y a un protagoniste et un antagoniste ou il y a juste un protagoniste, juste un personnage principal? Est-ce qu'il y a des personnages secondaires? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils font progresser le récit ou pas? De quelle façon? Donc, est-ce que les personnages... Donc ça, c'est du descriptif. Après, au niveau de la qualité, est-ce que les personnages sont stéréotypés ou est-ce qu'ils ont une grande profondeur? Qu'est-ce qu'on voit de leur évolution? Qu'est-ce qu'on voit de leurs caractéristiques, de leur personnalité, de leur rapport à l'existence, etc. Hein, là, c'est des éléments qui permettent de fonder un point de vue sur les personnages d'une œuvre en regardant leur profondeur, leur richesse en tant que telle. Donc ça, c'est un des critères. Un autre critère, un autre attrait mis de l'avant par Sarik, c'est l'intrigue. L'intrigue, évidemment, ça concerne ce qui se passe dans l'histoire. Et ce qui se passe dans l'histoire est bien évidemment relié à des thèmes. Et c'est évidemment aussi relié à des situations. Des situations qui, au fil du récit, se révèlent, se complexifient dans le temps. Et si le récit est un récit de résolution, ben on va avoir un nœud, une situation qui est un nœud, qui peut être une quête, qui peut être un problème, qui peut être... Et ce nœud va se dénouer au fil du récit. Et c'est ça qui va faire la différence entre le début et la fin du récit. Mais tous les récits ne sont pas des récits de résolution. Tous les récits n'impliquent pas un nœud qu'on dénoue. Certains récits sont des récits de révélation. C'est-à-dire que leur unique but, c'est de révéler une situation et la manière dont des personnages font face à cette situation-là, sans qu'il y ait de problème en tant que tel, ni de quête, ni sans qu'il y ait quoi que ce soit véritablement à dénouer. Et ce sont des récits quand même. Donc, déjà, selon les lecteurs, il y a des lecteurs qui sont attirés par des récits de résolution et d'autres plus par des récits de révélation. Et certains sont polyvalents, ils aiment un peu tout. Donc déjà, avoir ce critère-là, ça nous permet de choisir des œuvres en fonction de nos intentions. Si on veut travailler le schéma de récit en 5 temps, il vaut mieux aller vers des récits de résolution. Parce que si on choisit une œuvre de révélation, on va avoir un mal fou à aller trouver nos 5 temps, hein, puisqu'ils n'y sont pas. Donc, c'est le genre de critère qui nous aide à sélectionner des œuvres. Évidemment, là encore, c'est beaucoup la question des stéréotypes. Est-ce que les situations sont stéréotypées? Est-ce que, ou pas, qui jouent sur la qualité, hein, et qui jouent sur l'originalité d'une intrigue. Sinon, il y a le cadre du récit. Le cadre du récit, c'est dans quel contexte le récit se tient. Donc, dans quel contexte spatio-temporel, donc dans quel, à quelle époque, à quelle heure, à quelle saison, hein, pour le temps. Donc, il y a toutes sortes de récits qui se passent. Certains récits se passent l'hiver, d'autres récits se passent sur une longue période, sur toute une vie. Hein, donc, ça, c'est la question du temps. Et c'est pareil pour la question de l'espace. Hein, est-ce que ça se passe dans un lieu, comment dire, inconnu? Donc, un lieu abstrait, en quelque sorte, une forêt, ou est-ce que ça se passe dans un lieu spécifique, sur le Mont Royal, par exemple, hein? Donc, ça, c'est aussi des éléments qui jouent dans le cadre du récit. Ça, c'est le volet spatio-temporel du cadre du récit. Il y a aussi un volet socio-culturel du cadre du récit. Ça se passe dans quel contexte socio-culturel? Par exemple, des récits qui se passent en contexte de guerre. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments socio-culturels qui sont liés à ça, surtout quand il s'agit de guerres réelles qui ont déjà eu lieu, donc d'événements historiques. Et évidemment, le cadre est porteur d'une quantité très importante de repères culturels. On apprend énormément par la lecture, on apprend énormément par la bande, tout simplement en raison des contextes dans lesquels se situent les œuvres qu'on lit. Et il en va de même, évidemment, avec les enfants et dans les albums. Donc ça, c'est le volet cadre. L'autre attrait, un quatrième attrait dégagé par Sarix, c'est la tonalité émotionnelle. Dans quel type d'émotion on se trouve lorsqu'on lit cette œuvre-là, hein? Quelles sont les émotions que l'auteur cherche à générer en nous? Quelles sont les émotions qui sont mises en scène? Les œuvres littéraires sont des outils prodigieux pour le développement de l'intelligence émotionnelle. Parce que pourquoi c'est si prodigieux que ça? C'est tout simplement parce que ça met à bonne distance. Hein, plutôt que de parler de nos vécus, de notre vécu et de nos émotions, on peut parler du vécu et des émotions des personnages et donc prendre une certaine distance pour mieux comprendre ce qui contribue aux émotions et ce qui contribue aussi à l'apaisement des émotions. Et donc, c'est un moyen de développer ces compétences socio-émotionnelles vraiment importantes. Donc ça, c'est la tonalité émotionnelle des œuvres. Et évidemment, les élèves sont souvent très sensibles à la tonalité émotionnelle des œuvres. Très souvent, quand ils sont amenés à formuler des appréciations, ils vont mettre de l'avant qu'ils aiment telle œuvre parce qu'elle est drôle. Hein, donc l'humour, qui est une tonalité émotionnelle, vient souvent les chercher. Ou qu'ils aiment cette œuvre parce qu'elle les touche. Donc, c'est vraiment un moteur puissant dans la relation à l'œuvre que sa tonalité émotionnelle. Sarix, mais aussi, ça dans le fond, je vous ai parlé des 4 attraits qui sont reliés au contenu, hein, parce que le système de personnage, l'intrigue, le cadre et la tonalité émotionnelle, ce sont les contenus de l'œuvre qui sont porteurs de ça. Il y a aussi des attraits qui sont plus liés à la forme. Donc, il y a par exemple le rythme de l'œuvre. Est-ce que c'est une œuvre qui demande beaucoup de temps à être lue, ou au contraire, est-ce que c'est une œuvre qui se lit assez rapidement? Les albums, généralement, sont des œuvres qui se lisent assez rapidement, mais au sein des albums, il y a la variété. Par exemple, certains albums contiennent beaucoup de textes, donc ils se lisent un peu plus lentement que ceux qui en contiennent moins. Ou même du côté des illustrations, certains albums ont des illustrations foisonnantes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de détails au sein de l'illustration, ce qui demande un temps de lecture de l'image plus important si on veut vraiment tirer profit de l'image pour alimenter le sens du récit. Et évidemment, il faut faire ça quand on lit un album parce que les illustrations sont loin d'être uniquement esthétiques. Hein, leur visée, c'est pas ornemental. Leur visée, c'est vraiment d'être porteuse de sens. Donc, elles demandent un temps de lecture. Et évidemment, des illustrations foisonnantes qui regorgent de détails demandent un temps de lecture plus important que des illustrations épurées. Donc, ça joue sur le rythme en tant que tel. Mais le rythme, ce n'est pas juste ça aussi. C'est plein de procédés rythmiques qui peuvent être liés à la manière dont l'album est monté, à son montage. Par exemple, l'album, tout à l'heure, Lucille faisait état de la lecture que je vous ai faite de « Je parle comme une rivière ». Dans ce superbe album, il y a des jeux rythmiques dans le montage. C'est-à-dire que certaines doubles pages sont structurées, mises en page exactement de la même façon, ce qui crée un rythme dans la lecture. Et ça, c'est fréquent. Ça vaut toujours le coup de regarder le montage d'un album, de regarder est-ce qu'il y a des jeux rythmiques, est-ce qu'il y a des changements dans la manière de mettre en page. Évidemment, il y a des jeux rythmiques dans le texte. Hein, certains auteurs vont amener des petites formules répétitives au fil du texte et ça joue évidemment sur le rythme. Si je prends par exemple un album comme celui de Rascal, comme mon père me l'a appris, dans cet album-là, le titre, c'est comme mon père me l'a appris, mais tout au long de l'album, quasiment toutes les phrases commencent par ce complément de phrase, comme mon père me l'a appris. Hein, donc évidemment, ça joue sur le rythme. Et le rythme, c'est quelque chose qui relève de la forme.
Tu parlais aussi des illustrations, ça m'a fait penser à Allô Docteur aussi, où à chaque fois, il y a, avec l'illustration, il y a un animal qui disparaît, puis on doit trouver...
Tout à fait, tout à fait. Il y a du rythme dans cette manière, dans cette organisation du récit. Et d'ailleurs, très souvent, les contes avec les trois péripéties, ça c'est assez canonique hein, comme façon de faire, mais c'est quelque chose qui joue sur le rythme, hein, le rythme de la manière dont l'intrigue se met en scène. Sinon, l'autre attrait relié à la forme, c'est le style, purement et simplement. Donc, le style qui va se manifester par le choix de certaines figures de style, évidemment, mais aussi par tous les choix lexicaux, les choix de forme verbale, les choix de registre, etc. Et même des aspects comme la typographie. Et évidemment, le style, on peut regarder le style du texte quand on est face à un album, mais on peut aussi regarder évidemment le style esthétique des illustrations. Donc, Sarik ne s'est pas tellement intéressé aux illustrations, mais à dire vrai, ses attraits, on peut les appliquer aux illustrations. Parce que les illustrations renseignent sur le contenu, donc renseignent sur les personnages, renseignent sur l'intrigue, renseignent sur le cadre, renseignent sur la tonalité émotionnelle. Et les illustrations sont susceptibles d'être utilisées pour produire des effets rythmiques et elles ont évidemment du style, potentiellement. Donc, ces attraits-là servent à ça. Ce qui est intéressant avec cette série d'attraits, c'est qu'ils sont très accessibles aux enfants. Ils sont faciles à communiquer. Et une fois que les enfants maîtrisent ces attraits-là, il leur devient plus facile de se connaître comme lecteur. Parce que se connaître comme lecteur, c'est quelque chose qui est plutôt utile pour s'orienter vers des œuvres qui vont nous séduire. Hein, parce que si on ne se connaît pas, on prend un peu au hasard. Et en prenant au hasard, bah, la probabilité de tomber sur des choses qui nous plaisent vraiment n'est pas si grande que ça. Alors que quand on se connaît et qu'on est capable de dire « Ok, moi je sais que j'aime ça quand le système de personnages est assez épuré, quand il n'y en a pas trop. S'il y en a beaucoup, je perds le fil, etc. » Ok, c'est un critère, je saurai m'orienter vers ça. « Ah, je sais que je suis beaucoup plus sensible au récit de révélation. Moi j'aime ça quand on est en contact. » Si on se connaît comme lecteur, on va vers des œuvres qui nous donnent le goût de lire. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Donc, ils ont cet avantage-là. Donc, ils ne servent pas uniquement aux enseignants à sélectionner des œuvres intéressantes pour leurs élèves, mais elles servent aussi aux élèves pour eux-mêmes se familiariser avec leurs goûts et aller vers des œuvres qui vont leur plaire. Et évidemment, ces attraits-là ne sont pas juste utiles en réception, donc pour sélectionner des œuvres ou pour se connaître comme lecteur, mais elles sont également, ce sont des critères également extrêmement utiles en écriture, parce que là aussi, on peut faire ces choix-là. Hein, on peut se dire, ok, je veux écrire, mais quel système de personnage je vais faire, quel genre d'intrigue je vais produire, dans quel cadre va se situer mon récit, avec quelle tonalité émotionnelle je veux jongler. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont tout aussi utiles en écriture qu'en lecture. Donc ça, c'est ma longue réponse pour quels albums choisir. Et en fait, je n'ai même pas fini en plus, parce que je voulais vous parler d'autres critères que je trouve utiles. C'est ceux qui ont été mis de l'avant par Botello et Rudman, qui consistent à distinguer les œuvres en œuvres miroirs, œuvres fenêtres et œuvres portes. Alors, les œuvres miroirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des œuvres qui visent à l'identification. Ce sont des œuvres dans lesquelles on se reconnaît. Les œuvres fenêtres, ce sont des œuvres qui nous permettent de découvrir des réalités qui nous sont inconnues, qui nous sont peu familières. Évidemment, les œuvres miroirs des uns sont les œuvres fenêtres des autres, hein, parce que ça dépend de qui on est, qui est le lecteur. Mais en même temps, c'est très utile de savoir si on est attiré en priorité vers des œuvres miroirs ou si au contraire, quand on lit, on cherche plutôt à découvrir d'autres et on s'oriente vers des œuvres fenêtres. Par ailleurs, il y a les œuvres portes. Et les œuvres portes, ce sont des œuvres dans lesquelles les valeurs sont très très fortes et ce sont des œuvres qui poussent à l'action. Donc ce sont des œuvres qui font éprouver au lecteur leur agentivité, c'est-à-dire leur possibilité d'agir sur le monde. Ce sont des œuvres très fortement engageantes, donc ça vaut le coup de les mobiliser en contexte scolaire, ces œuvres-là. Il y en a beaucoup sur des thématiques environnementales, par exemple.
Est-ce que c'est un peu aussi ce que les bibliothécaires, ils ont appelé aussi des œuvres coup de poing? Est-ce que ça peut...
Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Parce que l'œuvre coup de poing, c'est une œuvre dont le thème est troublant. Hein, le thème est troublant et demande un accompagnement pour être traité, parce que potentiellement traumatisant, etc. Certaines œuvres coup de poing ont cette orientation et sont des œuvres portes, poussent à l'action. Mais d'autres sont purement et simplement des œuvres fenêtres qui nous font prendre conscience d'autres réalités, par exemple des œuvres sur la Seconde Guerre mondiale. Généralement, ce sont des œuvres coup de poing parce que ce n'est pas particulièrement plaisant de constater qu'il s'est passé ça dans le monde. Donc, c'est des choses plutôt dures et traumatisantes. Mais ce ne sont pas nécessairement des œuvres portes qui poussent à l'action. C'est plus quelque chose qui nous pousse à découvrir des réalités qui nous sont moins familières, Dieu merci d'ailleurs.
Oui.
donc voilà, ça c'est une autre série de critères qu'on peut avoir à l'esprit. Parce que très souvent, lorsqu'on intervient en orthopédagogie, on a avantage à utiliser des œuvres miroirs, notamment des œuvres miroirs qui font écho au vécu des enfants en orthopédagogie. Ce vécu, il est souvent difficile parce qu'ils éprouvent souvent du malaise par rapport à leur différence. Et cette différence peut aussi être stigmatisée par d'autres. Donc, ils peuvent aussi vivre du rejet. Donc, des œuvres qui leur permettent d'appréhender ces problématiques-là, mais en les mettant à distance, comme je disais tout à l'heure, hein, sans que ce soit leur vécu qui soit en jeu, mais c'est le vécu des personnages, ben, ma foi, c'est assez utile. Un petit peu comme « Je parle comme une rivière », de Jordan Scott et Sidney Smith, hein, sur l'enfant bègue qui parle de sa souffrance, ben, ma foi, c'est une œuvre qui est ultra précieuse pour parler du vécu émotionnel impliqué par le fait d'avoir une différence qui peut être stigmatisante.
Puis justement, au niveau des applications, tu sais, en orthopédagogie, on essaye aussi, que ce soit en classe ou en sous-groupe, on pourrait utiliser en tout cas l'album jeunesse en soutien. On travaille surtout plus pour les plus jeunes le code orthographique. Je sais que tu as travaillé beaucoup sur l'orthographe approchée. Oui. Donc, comment tu as fait pour mêler album jeunesse et orthographe approchée?
Ok. Ben, en fait, je vais donner un exemple spécifique. J'ai écrit un réseau l'année dernière, en 2021, sur l'univers de l'illustratrice Geneviève Després. Donc, c'est un réseau qui a été publié dans la revue Le Pollen, le numéro 34. Et c'est un réseau qui est destiné à des élèves du premier cycle du primaire. Mais à dire vrai, c'est un réseau qui présente toutes sortes d'activités pour inciter les enfants à lire l'image, à lire une illustration. Donc, bien qu'il ait été conçu pour des élèves du premier cycle, des enfants qui n'ont pas été familiarisés avec la lecture de l'image, mais qui sont plus âgés, peuvent tout à fait tirer profit des activités qui sont présentes dans ce réseau. Et notamment, Il y a une activité qui est proposée avec l'album La Ruelle, écrit par Céline Comtois et illustré par Geneviève Després, qui est un très très bel album miroir. Clairement, c'est un album miroir parce que c'est vraiment la réalité de plusieurs enfants en contexte urbain que de fréquenter avec des amis une ruelle. Donc, à ce niveau-là, c'est tout à fait miroir. Et l'activité qui est proposée, c'était une activité qui n'était pas prévue spécialement en orthopédagogie, mais j'en ai eu beaucoup d'échos d'orthopédagogues qui l'ont utilisée dans leur pratique en orthopédagogie. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai sélectionnée pour vous en parler aujourd'hui. Et c'est une activité qui consiste tout simplement à prendre une illustration plutôt foisonnante. En fait, Geneviève Després, elle est un petit peu au milieu. Elle va pas faire des illustrations épurées, elle va pas non plus faire des illustrations extrêmement foisonnantes. Elle est entre les deux, et ça signifie du coup qu'il y a plusieurs éléments que l'on peut désigner au sein de l'illustration. Il n'y a pas juste un élément qu'on voit, on en voit quelques-uns, on voit quelques éléments dans le décor en plus de ce qui est mis en scène. Et dans le fond, quand une illustration est comme ça, chargée de détails, elle devient très intéressante pour travailler l'étiquetage. L'étiquetage, la fonction d'étiquetage de l'écrit, c'est une fonction qui est omniprésente dans nos sociétés. Hein, l'étiquetage, c'est ce qui est en jeu dans les noms des rues, par exemple, et ce qui nous permet de nous orienter. Ce qui est en jeu dans les devantures de magasins, ce qui est en jeu dans l'étiquetage des produits alimentaires ou de tout autre produit. Donc, c'est un usage de l'écrit qui, socialement, est extrêmement présent et qui mérite d'être abordé en contexte scolaire. Et dans le fond, l'activité en question consiste à demander aux enfants d'étiqueter les éléments présents sur l'illustration. Ce qui, dans un premier temps, est intéressant au niveau du vocabulaire, parce qu'on peut comprendre une illustration sans avoir les mots pour nommer les choses au sein de l'illustration. Puis, en plus, on a des mots plus ou moins spécifiques pour parler des choses. Hein? Admettons que sur une illustration, il y ait un chien. Ben, évidemment, je peux dire chien, ce qui est un concept de niveau de base, mais si je m'y connais un peu en chien, je peux aussi dire que c'est un bouvier. Hein? Et là, j'utilise tout de suite un mot plus spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans une activité d'étiquetage pour l'acquisition du vocabulaire, parce que ça permet tout de suite de comprendre qu'on peut étiqueter des référents de différentes façons, avec une généralité plus ou moins grande. Parce que, évidemment, le chien, je peux aussi l'étiqueter animal. C'est le cas, c'est un animal. Je peux aussi l'étiqueter mammifère. C'est le cas, c'est un mammifère. Donc, ça permet de prendre conscience qu'il y a des niveaux hiérarchiques dans l'organisation du vocabulaire. Donc, c'est déjà utile en soi, au niveau lexical. Ensuite, évidemment, notre tâche, c'est d'étiqueter, il ne faut pas juste désigner à l'oral, il faut passer à l'écrit. Ce qui, évidemment, permet de travailler en production les correspondances entre les phonèmes et les phonogrammes. Or, travailler en production les correspondances entre les phonèmes et les phonogrammes, ça permet de les intégrer de manière beaucoup plus consolidée que lorsqu'on les travaille en réception. Parce que pour produire, on a toujours besoin d'avoir des connaissances plus solides que pour recevoir. On le comprend très bien quand on parle une langue étrangère. On comprend beaucoup plus de choses qu'on ne peut dire de choses. C'est quelque chose c'est un constat assez général. Donc, c'est avantageux avec des enfants en orthopédagogie de travailler les correspondances entre les phonèmes et les phonogrammes en production. C'est très avantageux si on veut les outiller. Par ailleurs, ce sont des mots ce sont des mots variés qu'on peut trouver au sein de l'illustration qui sont liés à l'orthographe française et donc ils sont pas nécessairement réguliers et ils ne contiennent pas uniquement des sons, il y a aussi des lettres muettes. Donc c'est un contexte qui permet de travailler un grand nombre de phénomènes orthographiques. Hein, après les mots étiquetés, on peut regarder comment ils sont composés. On peut évidemment commencer par demander aux enfants de faire des hypothèses. C'est ça le principe des orthographes approchées. Hein, ils commencent par faire des hypothèses sur la manière dont ce mot pourrait bien s'écrire. Et évidemment, quand ils font ces hypothèses-là, très souvent, surtout quand on est au primaire et qu'ils ont bénéficié d'un enseignement de la lecture et de l'écriture d'ores et déjà, ils ont compris qu'il fallait traiter les sons. Donc, il commence par faire un traitement phonologique du mot qu'il cherche à écrire. Donc déjà, ça nous permet de voir comment ils s'y prennent dans ce traitement phonologique. Est-ce qu'ils ont des stratégies pour traiter phonologiquement? Par exemple, s'ils veulent écrire « buisson », est-ce qu'ils vont avoir tendance à segmenter, hein, ou pas, hein, comment ils vont s'y prendre pour réussir à traiter la phonologie du mot? Puis après, comment ils vont s'y prendre pour écrire des phonogrammes appropriés ou non? Donc, c'est là qu'on peut voir les stratégies qu'ils mettent en œuvre. Certains enfants vont utiliser des stratégies analogiques. Je pense que ça s'écrit comme ça parce que ça, ce son-là, il s'écrit comme ça dans le prénom de ma sœur, par exemple. Lucille, je te voyais réagir.
Oui, je me demandais, est-ce que pour les élèves en difficulté, est-ce qu'on est mieux de sélectionner d'abord un vocabulaire en lien avec une règle orthographique ? Même okay. Si dans buisson, il y a deux S, je sais, mais mettons, on décide de faire le son « on ».
En fait, oui, on peut faire ce choix-là. Hein, si on est conscient d'ores et déjà d'une difficulté spécifique, on peut sélectionner une illustration dans laquelle les mots qui se trouvent ont des sons communs par rapport à ça. C'est facile si on utilise, par exemple, les illustrations des abécédaires. Si on va chercher des illustrations d'abécédaires, là, on peut avoir des mots qui sont connectés phonologiquement dans l'illustration. Mais ce n'est pas non plus nécessaire, parce que souvent, c'est plusieurs phénomènes orthographiques qui sont problématiques. C'est plus les stratégies orthographiques qui doivent être soutenues. Et auquel cas, peu importe les sons sur lesquels on travaille. Et l'avantage de fonctionner en contexte réel, hein, d'étiqueter des mots qui sont dans un contexte réel, c'est que souvent, on se confronte aux phonogrammes qui sont les plus fréquents, hein, aux correspondances qui sont les plus fréquentes dans la langue. Et ma foi, la fréquence, c'est aussi avantageux. Hein. Si on maîtrise ce qui est fréquent, on est mieux outillé que si on se consacre à travailler des phénomènes qui sont beaucoup plus rares. Donc, cet aspect-là est avantageux. Donc, je te dirais, en fait, Lucille, que ça dépend des choix de l'orthopédagogue et des besoins de l'enfant qu'il a en face de lui. Mais même si on ne fait pas ce choix-là, même si on y va généralement, comme dans l'activité que je proposais, il n'y avait pas de phonogramme en valeur en particulier, il n'en demeure pas moins qu'on peut voir toutes les stratégies qui sont mises en œuvre et les soutenir et les valoriser. Donc, et si on fait l'activité, moi je le suggérerais dans le réseau de faire cette activité-là en duo, les enfants bénéficient du modèle d'un autre. Donc ça aussi c'est intéressant. Une question qui est souvent mise de l'avant quand on parle des hypothèses réalisées en orthographe approchée, c'est le fait qu'elles peuvent évidemment s'écarter de la norme. Notre orthographe étant ce qu'elle est, on a souvent plusieurs choix pour noter un phonème donné, donc la probabilité de tomber sur la norme n'est pas très grande, comme ça, surtout si on écrit des mots dont on ne connaît absolument pas l'orthographe. Souvent, on pose la question, est-ce que c'est un problème pour un enfant? En fait, non. Parce que si c'était aussi facile de mémoriser l'orthographe que le simple fait de voir un modèle erroné qui est présenté comme ayant un statut d'hypothèse, parce que c'est ça qu'on dit, hein, on fait des hypothèses, on n'est pas en train d'écrire la norme à ce moment-là. Si c'était aussi facile que ça de mémoriser l'orthographe, il n'y aurait plus grand monde en orthopédagogie qui aurait des besoins au niveau orthographique. Donc non, ce n'est pas un problème en soi. Par contre, il faut être clair, c'est-à-dire qu'il faut être clair sur le statut d'hypothèse et il est important ensuite de travailler la norme, c'est-à-dire de l'introduire. Et c'est ça qui est présent dans les orthographes approchées. Les orthographes approchées ne consistent pas à demander aux enfants d'écrire comme ils pensent. Ça consiste à les amener à faire des hypothèses pour les mettre dans une posture réflexive et ensuite de confronter leur hypothèse à la norme pour comprendre le fonctionnement de la norme et s'approprier la norme, s'approcher progressivement de cette norme-là. Hein, donc, il ne s'agit pas d'écrire au son pour écrire au son. Il s'agit vraiment de s'approcher. Donc, dans cette activité d'étiquetage, dans le fond, on peut aborder plusieurs phénomènes orthographiques. Et évidemment, on peut aussi après prolonger l'activité en incitant les enfants à écrire une phrase avec les mots travaillés qui permet de rendre compte de l'illustration sur laquelle ils étaient en train de, enfin, qu'ils ont utilisé pour leur observation. Et là encore, ben, ensuite, on peut faire un travail syntaxique par rapport à ça. Hein, donc, on peut avoir un prolongement. Donc, ça, c'est l'activité moi, que je proposais, c'était avec la ruelle, parce que les illustrations sont nombreuses, elles ont un degré de foisonnement qui est intéressant pour de jeunes élèves, etc. Mais à dire vrai, on peut faire ça avec n'importe quel album sans texte, ou même avec n'importe quel album avec texte, pour peu qu'on s'intéresse à leurs illustrations. Et une chose que je recommanderais, moi, aux orthopédagogues, s'ils exercent dans un contexte dans lequel les enseignants utilisent la littérature jeunesse, utilisent des réseaux littéraires dans leur enseignement, il est extrêmement profitable pour les élèves qu'ils suivent de travailler des œuvres en cohérence avec le réseau qui est exploité en classe. Parce que du coup, ça crée une connivence, ça crée des liens, ça fait en sorte que l'enfant qui, par exemple, est sorti pour travailler en dénombrement flottant avec l'orthopédagogue, ben, quand il revient dans la classe, lui aussi, il a travaillé des œuvres, par exemple, si c'est un réseau d'auteurs qui les occupe ces temps-ci, ben, lui aussi, il a travaillé cet auteur-là, il a des connaissances à apporter au groupe par rapport à ça. Donc, ça a tendance, en fait, à améliorer la cohésion entre les pratiques de classe et les pratiques en orthopédagogie.
Puis ça me fait penser, hier, justement, je parlais avec Ben moi, mon environnement est bilingue, donc on parlait justement avec la prof d'anglais et on disait de faire des liens du même thème entre l'anglais et français, et voir même s'il y avait des traductions, etc., donc pour que les enfants fassent le lien et améliorent leur vocabulaire. Ouais.
C'est effectivement une très bonne suggestion de faire ça, travailler avec les professeurs en langue seconde, d'autres, les mêmes œuvres ou les mêmes auteurs, c'est très utile.
C'est ça, ouais. Merci, merci beaucoup pour l'entrevue, Isabelle. Toujours aussi intéressant, riche et du coup, il y avait plein d'albums qui apparaissaient dans mon esprit, tu sais. Donc, au fur et à mesure que tu parlais de contexte de lieu, ben, j'avais pensé effectivement à la ruelle, la montagne aussi de Marianne Dubuc, etc. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup pour ce partage riche et enrichissant, comme je disais. Merci.
Ça me fait plaisir. Merci à vous deux.
Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akouri en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.